Et je vous propose pour ce jour un texte dans l'évangile de Luc, un texte difficile, enfin moi je le trouve difficile, comme tous les textes qui sont tranchants et qui ne semblent pas nous ouvrir plutôt vers la liberté et vers l'espérance, mais plutôt je trouve qu'il nous plombe un peu. Voici donc dans l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva ses yeux et en proie au tourment, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous, se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te prie, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous chanterons donc maintenant le cantique, les 3 premières strophes du cantique 279. Et je vous invite à vous lever. Non, je sais pas.
Thank you.
Comme je vous l'ai dit, ce texte ne me plaît pas beaucoup. Mais s'il fallait lire que les textes qui nous plaisent dans la Bible, je pense qu'il ne resterait pas forcément grand-chose. Donc, c'est peut-être ça d'ailleurs la force du texte biblique, c'est qu'il nous bouscule et que dans un évangile comme celui de Luc, finalement, où Jésus est quand même beaucoup plus sympathique que dans les autres, il est très compatissant, il parle énormément de pardon, voilà un texte qui vient en opposition avec tout le reste. Un texte bien plus évangélique, puisque être évangélique, c'est annoncer une bonne nouvelle. Donc, finalement, est-ce que ce texte nous annonce une bonne nouvelle? Et puis, ce texte, il me gêne un peu aussi, parce qu'il va un peu trop aussi dans le sens des idées reçues, d'un monde d'après, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et puis, si vous faites le bien ici, eh bien, là-haut, ça sera merveilleux. Enfin, bon, voilà, tout ça, ça me gêne un peu. Et puis, les riches sont méchants et les pauvres sont sauvés. Je pense que c'est en réalité un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéresse toujours de gratter un peu plus dans le texte et de voir que ce qui s'y passe. En tout cas, à première lecture, j'entends un récit dans lequel j'ai bien du mal à discerner le plan de Dieu. Et puis ce monde d'après la vie, puisque les deux hommes meurent et qu'ils se trouvent projetés dans un au-delà, moi il m'ennuie un peu parce que finalement il est comme ici. Bon, il est à l'envers, mais il est quand même comme ici. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est bien et il y en a pour qui c'est pas bien. Donc, je trouve que ça me plaît pas bien, ça me plaît pas beaucoup. En tout cas, ça me plaît même pas du tout. Parce que si c'est ça la bonne nouvelle, eh ben, elle ne m'intéresse pas. Et le Dieu dans lequel je crois, eh bien, en tout cas, il n'a pas du tout pour moi cette image. Donc, ce récit, d'ailleurs... Est-ce un récit, est-ce une parabole? C'est un peu compliqué à savoir. En général, les paraboles sont introduites par une phrase de Jésus. Je vais vous raconter une parabole, une histoire, enfin, suivant les traductions. D'ailleurs, là, il est introduit, en réalité, si vous regardez vos Bibles, par absolument rien. Jésus parle avant de la richesse et de la pauvreté, certes, mais il s'adresse particulièrement aux pharisiens à ce moment-là et aux scribes, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe que très rapidement, dans certains manuscrits, on va rajouter « et Jésus leur dit cette histoire ». Mais en réalité, est-ce une parabole? J'en suis pas sûre. En tout cas, ça me questionne la nature de ce récit et pourquoi il arrive là, en plein milieu d'un discours de Jésus. En tout cas, les récits, en général, nous cachent souvent quelque chose. C'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse un peu, lorsqu'on a une lecture plus attentive, lorsqu'on les remet dans leur contexte, à la fois le contexte, l'avant et l'après du récit, le contexte de l'évangile de Luc, mais aussi le contexte de l'époque. C'est intéressant aussi de toujours s'intéresser à cela, c'est important, et je pense que cela peut nous ouvrir quelques pistes. Parce que si on s'en reste là, le message est insupportable, et j'ai un peu de mal à entendre le message insupportable. Alors, certes, il y a une critique des riches là-dedans. Est-ce vraiment sa richesse qui est critiquée ou plutôt son comportement? Alors, peut-être que c'est sa richesse qui va influencer son comportement, mais bon, on peut l'entendre aussi. Je vous disais que c'est insupportable, mais on peut entendre aussi au premier degré, de manière littérale, comme ça. Faites un peu attention à vos actes, parce que peut-être qu'un jour, vous aurez à en répondre. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit forcément en haut, à en répondre. On peut déjà avoir à en répondre ici. Et puis, ça nous invite justement à regarder les autres, si on lit cette parabole de manière littérale. On entend bien quand même la critique de cet homme qui passe devant ce pauvre qui est là, à ses pieds, à la porte, et il ne le regarde même pas. Bon. Ça nous arrive aussi de passer comme ça et de ne pas regarder les gens. Ça nous questionne en tout cas. Et ça nous dit, moi ça me questionne, ça me dit, quelle attitude avoir? Je n'ai pas toujours la réponse, mais quelle attitude avoir? Je l'entends déjà comme une question, un aiguillon, et plus par le récit que par ce qui se passe après, d'ailleurs. Et puis, ce récit, il est intéressant aussi sur les oppositions qui s'y jouent. Bon, mais avant de voir les oppositions, je vais essayer de remettre dans le contexte cette parabole, si c'en est une. D'abord, Jésus parle en parabole, mais à l'époque, je veux dire, dans le judaïsme de l'époque, et dans le judaïsme d'ailleurs encore aujourd'hui, on parle beaucoup par parabole ou par comparaison. Bon, la différence, c'est qu'une parabole, en général, c'est un récit, une comparaison, ça peut être de terme à terme. Donc, mais justement, le fait que ça soit un récit nous invite à l'interprétation, exact comme cela. En tout cas, dans l'évangile de Luc, beaucoup de paraboles. Et juste avant, des paraboles fort sympathiques d'ailleurs, au chapitre 15, vous savez, il y a la parabole de la brebis perdue et retrouvée, de la perle, de la pièce perdue et retrouvée, et du fils perdu et retrouvé. Alors c'est parfois un peu ambigu, mais en tout cas, c'est toujours il y a toujours une fin heureuse. Et là, la fin dans notre parabole, elle n'est pas très heureuse. C'est vrai, dans les paraboles de Jésus en général, il y a une fin heureuse. Et puis, c'est la seule parabole, c'est le seul récit qui parle de l'au-delà. Parce que la plupart des autres paraboles parlent de la vie concrète. Beaucoup de paraboles agricoles d'ailleurs, parce qu'à l'époque, l'agriculture faisait partie de la vie de tous et de toutes. C'était vraiment l'activité essentielle. Donc Jésus se sert des images pour raconter bien autre chose. Cette parabole, enfin, est ce qu'on appelle un bien propre de Luc, on ne la trouve pas ailleurs. Et comme je vous disais, c'est assez étonnant parce que Luc est quand même un évangéliste qui nous montre un Jésus très compatissant et très en phase avec ceux qui l'entourent. Il bouscule beaucoup moins que dans l'évangile de Marc, par exemple. Donc, c'est étonnant de le trouver là. Mais on va faire un détour aussi maintenant, après faire un détour sur les paraboles, sur la vision de l'au-delà. En fait, Jésus, je pense, se sert, comme il se sert des images agricoles, eh bien, il se sert de la vision de l'au-delà qu'ont la plupart de ses contemporains. Donc, dans cette culture orientale du premier siècle, enfin, de notre ère. On retrouve, d'ailleurs, dans d'autres lieux, mais proches, par exemple, en Égypte, dans un papyrus égyptien, on retrouve une histoire avec de grandes similitudes. Lors d'un enterrement d'un riche et d'un pauvre, une fois arrivé dans l'au-delà, le pauvre se trouve assis auprès d'Osiris, donc il est récompensé, et il va récupérer toutes les offrandes mises dans le tombeau du riche. C'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à ça, que tout ce qui était dans les tombeaux magnifiquement riches que l'on trouve en Égypte, eh bien là, c'est donné aux pauvres. Ah ben, on voit bien un renversement des valeurs. Le riche, lui, a tout perdu, puis alors, vraiment, je vais vous dire, c'est pas du tout sympathique dans ce conte. Il se retrouve même dans son tombeau, et en fait, dans son œil, il y a le gond de la porte qui permet d'ouvrir et de fermer la porte pour entrer dans le tombeau. Donc, vous voyez que c'est assez épouvantable aussi. Ça vaut peut-être bien les flammes de notre récit. Et puis, dans une source talmudique aussi, il y a une histoire, alors là, c'est un peu décalé, mais ça va m'intéresser aussi. L'histoire d'un juif pieux et d'un juif riche non pratiquant. Et il y a l'inversion des sorts aussi, là, dans le dola. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'apparaît en décalage avec la notion de richesse, la notion de foi et de piété. Et je pense qu'il est question aussi de cela dans notre parabole. Donc vous voyez, Jésus se sert des images de l'au-delà, certainement pas pour nous annoncer cet au-delà, mais il s'en sert pour essayer de faire passer un message à travers ce récit, cette parabole. Alors, le contexte de l'écriture aussi dans l'évangile de Luc, c'est celui de l'argent. On retrouve également juste avant la mention de la loi et des prophètes. Donc c'est quelque chose, on voit bien que là, Jésus est en train de travailler la loi, ou Moïse, puisque là dans notre parabole, ça c'est signifié par le nom de Moïse, mais Moïse, nous le savons, c'est la loi et les prophètes. C'est intéressant aussi, parce que cette parabole travaille en effet, qu'est-ce que la loi et les prophètes ? J'y reviendrai, mais juste un mot, parce que des fois j'oublie, je vous dis j'y reviendrai, puis comme j'ai oublié entre-temps, à mon avis, quand on dit Moïse et les prophètes, ce qui est très intéressant, c'est que la loi, elle n'est pas toute seule, elle ne nous est pas donnée toute seule, elle nous est donnée avec son interprétation. Et les prophètes, justement, c'est eux qui vont interpréter la loi, parfois de manière radicale, parfois de manière étonnante, même en contrevenant la loi, enfin, ce que l'on croit, la loi. La loi, nous le savons, dans la Bible, c'est quelque chose qui nous libère, c'est pas quelque chose qui nous enferme, et la loi, parfois, enfin, elle peut être contrevenue parce que la loi se situe toujours du côté de la vie. Et c'est cela que nous enseignent les prophètes. Et qu'est-ce que font les prophètes? C'est sûr qu'il y a des grands discours sur la manière de se comporter sur le plan religieux, mais avant tout, les prophètes, ce qu'ils pointent et ce qu'ils nous disent que Dieu déteste, eh bien, c'est l'injustice sociale, en règle générale. Donc la loi et l'interprétation dans le sens de la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester de manière littérale. C'est cela qu'annonce, lorsque Jésus énonce la loi et prophète, il nous dit bien qu'il faut interpréter. Et lui, il est l'interprète avec un grand I de la loi. Donc, la loi et les prophètes. Donc, ainsi, cette parabole nous invite à réfléchir, à lire différemment. Je vous le disais, on peut l'entendre en quelque sorte comme une opposition entre un mauvais riche et un bon pauvre. On peut s'interroger, oui c'est vrai que le riche il est quand même pas très reluisant, sur la bonté du pauvre. Le pauvre, je ne vais pas l'accabler parce qu'il est déjà là à la sortie, il est plein d'ulcères. Et je disais qu'il y avait des oppositions entre ce riche qui mange en abondance et qui a même des restes dont le pauvre, on nous dit, se contenterait. Ça nous rappelle cette histoire de femme qui se contente des miettes qui tombent de la table de Jésus. Mais là, le pauvre, il n'a même pas les miettes. Et en plus de ça, non seulement il ne mange pas, mais il sert de nourriture. Si lui-même, on nous dit, il est léché, les chiens viennent lécher ses ulcères. Ainsi, il y a une opposition totale entre celui qui fait bonne chair, peut-être que c'est dit dans le grec de nos textes, et celui dont la chair sert de nourriture. Il y a quelque chose d'assez épouvantable dans cette opposition. Mais ce pauvre, il a quelque chose d'étonnant. D'étonnant si on fait attention à notre monde encore aujourd'hui. Ce pauvre a un nom. Il s'appelle Lazare. Éliazar, une contraction de Dieu aide. On peut se demander d'ailleurs si Dieu l'aide vraiment, s'interroger, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre monde, on peut s'interroger. Mais c'est la seule personne des paraboles qui a un nom. Et dans le monde juif de l'époque, le nom est important. Et c'est la seule personne qui a un nom dans les paraboles, mais si vous regardez bien dans notre monde, les seuls qui n'ont pas de nom, c'est bien ceux-là. Un sigle, SDF, vous voyez que c'est quand même pas très reluisant. Ils ont non seulement ils n'ont seulement pas de nom, mais en plus ils sont appelés par un sigle. Connaissez-vous le nom de la personne qui mendie à la porte, ou même là j'imagine, je connais pas trop votre quartier, mais j'imagine qu'il y en a au moins autant que dans mon quartier, là de l'autre côté de Paris. Est-ce qu'on connaît leur nom? Est-ce que de temps en temps on se penche vers eux? Ou même si on descend pour être à même hauteur, à hauteur d'homme ou de femme, pour demander leur nom. Ça arrive à certains d'entre nous, à certains moments, mais bien souvent nous oublions leur nom. Et ici, on nous montre une inversion, comme pour nous dire que finalement, et ça nous rappelle que Dieu nous connaît chacun par notre nom, nous rappeler la dignité de chacun et de chacune. Le riche, il n'a pas de nom. Mais il n'a pas de nom, c'est intéressant aussi, parce que du coup, tout le monde peut s'identifier à quelqu'un qui n'a pas de nom. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est les oppositions qu'il y a dans le texte. Mais ces oppositions, elles vont être inversées dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'avec quand même un décalage. Vous l'avez entendu, il y a l'opposition entre le riche et le pauvre, celui qui a la nourriture, celui qui sert de nourriture. Et dans l'au-delà, il n'est plus question de richesse et de pauvreté, il est question plutôt de bien-être. Il y en a un qui souffre et l'autre qui est dans une sorte de béatitude. Je prends le mot de béatitude qui est à la fois un joli mot, mais parce qu'il y a aussi le mot béat qui n'est pas terrible. Mais je trouve qu'il est un peu comme ça, Lazare, dans l'autre monde. Parce que ça soit dans ce monde-là ou dans l'autre, il ne prend jamais la parole, comme s'il n'existait pas. Il ne dit rien. Alors, quand il est très malheureux, je peux comprendre qu'il ne dit rien. Mais après, il dit rien non plus. Il est bien, là, il est dans les bras d'Abraham, et puis il dit rien. Et d'ailleurs, on ne s'adresse toujours pas à lui. C'est-à-dire que le riche, il s'adresse à Abraham, il ne s'adresse pas à Lazare. Il ne lui dit pas, et toi, je te connais, je t'ai maltraité, viens maintenant, je t'appelle à l'aide, je suis désolé. Non, ce n'est pas ça. C'est un dialogue entre le riche et Abraham. Encore un dialogue, finalement, entre grands. Grand de ce monde ou grand de l'autre monde, qui en quelque sorte décide encore du sort de Lazare. Donc vous voyez que c'est pas le monde de l'au-delà n'est pas si inversé que cela. Et cela me fait penser d'ailleurs, quel est ce monde que Jésus décrit ? Ce monde où il y a un fossé entre les uns et les autres, un fossé infranchissable. Et si Jésus racontait pas ça, pour parler de notre monde, du monde de l'époque de ceux à qui il s'adresse, il y a certes un fossé entre les pharisiens, les scribes et ceux qui ne connaissent rien. Il y a un fossé à l'époque entre les hommes et les femmes. Il y a un fossé entre les enfants, les adultes. Des fossés, il y en a plein. Et dans notre monde aussi, il y a de nombreux fossés infranchissables. On essaye bien de les rapetisser et de faire qu'on puisse se tendre la main et se toucher, mais c'est toujours compliqué. Moi, je pense que finalement, ce monde de l'au-delà, c'est notre monde d'aujourd'hui. Ce que pointe Jésus, c'est à l'inverse, mais en réalité, on est pratiquement dans les mêmes oppositions. L'opposition, ainsi, entre ceux qui souffrent et ceux qui ne souffrent pas. Cela nous invite aussi à réfléchir à la manière dont la souffrance peut nous couper des autres. Mais donc, tout cela nous invite au contraire à revisiter nos attitudes, à revisiter notre monde. Cela nous interroge sur notre propre éthique, ici et maintenant. Donc, vous le voyez, si on essaye un peu, ce n'est certes pas une bonne nouvelle qui nous est annoncée, mais si, c'est une nouvelle qui nous dit que nous sommes, nous aussi, responsables. Que devant Dieu, nous sommes responsables, nous sommes appelés à vivre autrement. Alors, je voulais pointer aussi, tout à l'heure je parlais de la parabole talmudique qui allait du côté de la piété. Eh bien, ici aussi, nous allons en quelque sorte du côté de la piété. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'à la fin, on nous dit deux fois « écoute » ou « il n'écoute pas ». C'est ce verbe « écouter ». Ce verbe « écouter » qui est si important dans la Bible. L'écoute, c'est une écoute attentive. Ce n'est pas une écoute obéissante et béate, c'est une écoute attentive, c'est une écoute qui nous met en marche. C'est une écoute qui est de l'écoute de la parole de Dieu vécue, incarnée. Eh bien, cette écoute nous permet d'avancer et nous interroge. Et là, deux fois, eh bien, dans le dialogue entre Abraham et le riche, ils n'ont pas écouté. Écoute. Et voilà. Voilà que ce riche, finalement, ne devient pas si mauvais dans l'au-delà. Il souffre un peu et du coup, d'un seul coup, il se réveille et il dit à Abraham, envoie Lazare, envoie-le dire à mes frères combien, eh bien, il faut qu'il change d'attitude pour ne pas se retrouver dans ma position et souffrir. Oh, c'est assez sympathique, avant il s'intéresse à personne, même on ne sait pas ses frères ni quoi que ce soit. Là, d'un seul coup, à un moment où il souffre, il a un soubresaut. Ça nous interroge aussi, est-ce qu'il faut vraiment souffrir, être en difficulté pour avoir des soubresauts ? Moi, je crois que même dans la joie, même dans la plénitude, même quand tout va bien pour nous, eh bien, au contraire, profitons-en pour nous intéresser aux autres. C'est là, c'est à ce moment-là qu'on sera encore plus productif. Ça nous le dit, ça. Ça nous dit, ben, t'es riche. Oh, la richesse, toutes sortes de richesses. Hein. T'es riche, eh bien, vas-y, intéresse-toi un peu à ce monde et aux autres. Et c'est peut-être là que tu peux faire bouger les choses. Eh bien, ce riche, finalement, devient presque sympathique dans cet au-delà. En tout cas, j'ai du mal à pointer toujours du doigt et à juger. Mais là, il dit, c'est justement là qu'il y a le problème de l'écoute, de la loi et des prophètes. En effet, il a tout. Nous avons tout pour savoir à peu près comment nous comporter et comment agir dans notre monde. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que la loi, on l'entend, l'interprétation, même des fois on peut se tromper. Mais bon, on peut essayer. En tout cas, ils ont tout. Et s'ils écoutent, et là on se place du côté de la foi, écouter Dieu, écouter la parole de Dieu, c'est écouter aussi les autres, nous mettre à l'écoute du monde. Eh bien, si nous nous mettons à l'écoute de Dieu et du monde, nous pouvons en effet changer. Et ce qui est intéressant dans notre texte, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec cette écoute, il est question de résurrection. Alors, il y en a un, Lazare, qui a ressuscité. Oh, c'est pas chez Luc, c'est chez Jean. Mais je pense que on peut entendre parfois en écho les textes, même entre les évangiles. Faut pas dire cloisonner tout. Lazare, il est revenu. Lazare, c'était celui que Jésus aimait. Il a pleuré à son tombeau. C'est le premier qui est revenu. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? À mon avis, c'est plutôt de l'ordre de la réanimation. Mais il y en a un autre qui est ressuscité et qui est venu dans le monde nous annoncer la bonne nouvelle. C'est le Christ. En quelque sorte, lorsqu'il énonce cette parabole, ce récit, il annonce en quelque sorte sa mort et sa résurrection. Et il le sait, alors même que la résurrection, eh bien, nous est annoncée, eh bien, nous sommes là, savons-nous l'entendre et l'écouter. Ce texte, en réalité, agit presque comme le ressuscité. Ce texte nous est présenté comme une voie pour être vivant, pleinement vivant, c'est cela la résurrection, aujourd'hui et maintenant. Et être pleinement vivant aujourd'hui et maintenant, eh bien, c'est permettre à notre monde de changer. C'est construire ensemble ce monde que Dieu désire. Le monde que Dieu désire, c'est un monde, eh bien, apaisé. Ce texte fait office de ressuscité. De Christ, c'est sa parole. Se mettre à l'écoute de l'Évangile, c'est justement le mettre en pratique, ou tout du moins essayer de le mettre en pratique. En clair, cela veut dire voir dans Jésus le ressuscité, cela change ma vie, cela change nos vies. Alors, laissons-nous toucher par la parole de Jésus au plus profond de notre être, celle qui nous arrache à l'indifférence, celle qui pointe tous nos manques, non pour les juger, mais pour nous faire entrer dans le monde de l'amour et dans le monde du partage. Amen.